L'Évangile pour le couple.
L'Évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Maud, aujourd'hui nous allons essayer d'approfondir l'appel du Christ auprès des couples pour qu'ils s'engagent dans la mission. La mission n'est pas dans l'Église, n'est pas simplement le fait des curés, des religieux, des célibataires, mais c'est les couples et les familles qui également doivent être missionnaires. Alors pour cela, Maud, nous allons commencer par rappeler justement l'Évangile où le Christ envoie ses disciples, et pas simplement les 12, en mission.
C'est dans l'Évangile de Saint Luc, au chapitre 10. Le Christ désigna 72 disciples et les envoya deux par deux devant lui, dans toute ville et localité où il devait aller lui-même. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez !»
Voilà, beaucoup de choses dans ce texte court. Alors vous remarquerez tout de suite, puisque nous sommes en tant que couple, et nous adressons plus particulièrement à des couples ou à des futurs couples, le Christ désigna 72 disciples et les envoya deux par deux. Et donc deux par deux, il n'est pas dit qu'il n'y avait que les hommes, Maud. Hein. Donc,
absolument, on peut tout à fait dire que c'est. Il envoie des couples en mission.
Voilà, je pense que nous sommes, nous sommes concernés, et nous sommes envoyés. Voilà, c'est ça qui est important, c'est que le chrétien, et donc le couple chrétien, ne s'envoie pas en mission tout seul. Ils disent, tiens, je vais aller les présenter. Non, c'est que nous répondons d'abord à un appel et à une désignation et à un envoi explicite du Christ. Voilà. Et en plus, le Christ souligne que la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux, et donc il faut prier pour qu'il y ait de plus en plus d'ouvriers pour la moisson. Et donc notre émission est une très humble contribution justement au fait de relayer le fait que oui, en tant que couple, nous sommes appelés à missionner et à rencontre du Christ.
Et c'est le Christ qui nous envoie, et le Christ nous envoie avec une logique, puisqu'il voulait les envoyer dans les villes et localités où il allait aller. Donc on imagine qu'il y avait un plan, si je puis dire, d'envoi en mission pour préparer la venue de Christ. Donc de la même façon, nous sommes en Église reliés à une logique globale qui est celle de l'Église dans son, je dirais, dans sa totalité, où nous, de façon particulière, chacun d'entre nous, nous avons une mission à vivre et nous sommes envoyés en mission par l'Église pour l'accomplir.
Voilà. Et d'ailleurs, Paul dit, comment prêcher si on n'est pas d'abord envoyé en mission? Parce qu'il y a une question de communion avec l'Église qui est fondamentale, de communion dans la foi, de communion avec les personnes, avec ceux qui ont autorité dans l'Église, c'est fondamental. C'est fondamental de pouvoir avoir ce mandat pour pouvoir donner la parole. Ce n'est pas en notre nom que nous parlons, mais c'est au nom du Christ et de l'Église.
Et nous annonçons justement une parole qui nous dépasse, qui ne vient pas simplement de nous. Donc nous sommes inscrits dans l'Église et c'est au nom de l'Église que nous annonçons le Christ. C'est pas nous que nous annonçons. Donc comme disait Paul VI dans son encyclique sur l'évangélisation dans le monde moderne, il répétait « Évangéliser n'est pour personne un acte isolé, mais c'est un acte profondément ecclésial. »
Alors pour les couples, le Christ envoie tous les chrétiens, donc les laïcs, rendre compte, témoigner, annoncer au cœur de leur vie quotidienne, et donc particulièrement pour les couples. Et c'est là, vous vous souvenez peut-être que la semaine dernière, nous avions insisté pour développer le sens de la mission conjugale. Nous avions réfléchi sur le texte fondateur de la Pentecôte avec Acte 2, et il est dit dans la suite de ce texte, il est dit dans Acte 5, tous les jours au temple et dans leur maison, sans cesse, les disciples enseignaient la bonne nouvelle. Et donc effectivement, peut-être que les ministères consacrés, ordonnés, etc., sont peut-être davantage appelés à effectivement missionner dans le temple, dans les institutions, dans les églises, etc. Mais les couples, bien sûr, aussi peuvent le faire. Mais leur première mission, c'est dans la vie, c'est dans leur maison. Voilà, c'est tous les jours, ils annonçaient la bonne nouvelle. Donc nos maisons, les espaces missionnaires privilégiés pour les couples et les familles, c'est au cœur de leur vie. C'est pas d'abord dans les mouvements à droite et à gauche, dans les institutions, dans les groupes, c'est dans la vie, dans la maison. Auprès des enfants, dans la maison, c'est aussi tout l'espace civil, c'est tout l'espace de la société.
C'est d'ailleurs justement une constante de l'histoire de l'Église, la transmission de la foi, c'est d'associer des laïcs à la mission apostolique de l'Église. Alors, dans les premiers siècles, on voyait ça très clairement. Paul nous parlera de Priscille Aquila, dont on reparlera plus tard dans cette émission. Il y a aussi toutes les brigades de Sainte-Catherine de Sienne qui associaient des laïcs. Il y a aussi des tas de missions qui se sont faites avec des laïcs. Puis rappelons-nous aussi que la foi juive, par exemple, s'est transmise par les familles. Avant même, puisque des moments les synagogues étaient détruites, c'est les familles qui assurent la continuité de la foi. Et dans toutes les églises souterraines, on retrouve cette importance primordiale des familles, des couples, pour transmettre la foi, pour faire vivre la foi et pour annoncer à l'intérieur même de leur vie domestique le bouversement et le changement radical qu'est la foi en Christ.
Si je ne m'abuse, je crois que les premières vraiment églises chrétiennes, les bâtiments pour accueillir le peuple de Dieu, etc., ça n'a eu lieu que je crois qu'au deuxième au troisième siècle après Jésus-Christ. Mais donc la croissance, la fondation des premières églises, ça a d'abord été dans les maisons. Et les maisons, c'est par définition des espaces conjugaux et familiaux. Et donc le Concile Vatican II parle très clairement de l'évangélisation comme un devoir fondamental du peuple de Dieu, toute l'Église est missionnaire, et comme la première cellule de l'Église, c'est le couple et c'est la famille. Donc la famille forcément est missionnaire.
Alors je parlais tout à l'heure de Priscille et Aquila, c'est vrai que c'est un couple qui nous est cher, qui travaillait avec Saint Paul, on en parle plusieurs fois dans les Actes, et ils prennent complètement part à la mission de Paul, ils évangélisent avec lui, ils forment aussi.
Oui, c'est très important de souligner ce double ministère de Priscille et Aquila.
Voilà, c'est-à-dire à la fois ils ont un travail d'annonce de la parole avec Paul dans des milieux complètement païens, et à la fois dans leur maison, ils accueillent des disciples pour les former au chemin, c'est-à-dire pour les former à la foi et prendre le temps de les faire grandir et croître dans leur vie chrétienne, si je puis dire, toute nouvelle.
Et aussi, il formait Apollos, c'était un missionnaire, mais qui n'avait pas toute la révélation, il n'a pas acquis toute la révélation. Donc, ils ont formé les missionnaires. Donc, nous sommes aussi, en tant que couple, appelés à missionner et à former également pour la mission.
Alors Paul VI parle aussi de la famille comme une communauté qui évangélise, un lieu où l'évangile rayonne. Ouais. On a une vraie responsabilité d'être ces cellules de base de l'annonce de la foi.
Alors c'est Jean-Paul II qui approfondira le plus profondément justement cette mission particulière du couple au cœur de l'Église. Il parle du sacrement du mariage enraciné dans le baptême et la confirmation qui établit époux et parents comme témoin du Christ, écoutez-moi, comme témoin du Christ jusqu'aux confins de la terre. Hein. C'est vraiment le baptême, la confirmation et le sacrement de mariage qui établit les couples comme témoins du Christ jusqu'aux confins de la terre et véritable, véritable missionnaire de l'amour et de la vie. Et il parlera pour cela que la famille est la première communauté appelée à annoncer l'Évangile. D'abord, bien sûr, au niveau des enfants, mais après de tout l'aéropage. L'oïkos, dit-on en grec, dans les cellules d'évangélisation, par exemple.
Dans l'état de famille chrétienne, c'est encore quelque chose sur lequel les papes insistent. L'avenir de l'évangélisation dépend en grande partie de l'Église domestique.
Dépend, vous vous rendez compte ? Dépend, ça veut dire que si jamais on ne s'y engage pas, il y a tout un pan essentiel de l'évangélisation qui ne sera pas mené par l'Église.
Et nous sommes donc appelés à être témoins du Christ jusqu'aux confins de la terre. Donc c'est-à-dire que partout, les laïcs et les familles peuvent aller annoncer la bonne nouvelle. Là même où des religieux ne sont pas autorisés, nous, familles, nous pouvons y être. Nous pouvons être auprès de nos contemporains, loin des églises, loin des lieux chrétiens, parce que c'est notre boulot de laïc que d'infuser toute la société et d'annoncer la bonne nouvelle.
Cette exigence il la soulignera en disant « Mais c'est un devoir auquel on ne peut pas se soustraire. » Donc le Christ, dit-il, Jean-Paul II toujours, est venu restaurer dans toute sa splendeur le dessein originel de Dieu dans le couple, mais qui s'est obscurci dans l'histoire en raison de la dureté du cœur, etc. Et donc le couple doit d'abord goûter cette transformation, cette libération du Christ. Et nous ne pouvons avoir l'esprit tranquille en pensant aux frères et sœurs, donc à tous les couples, dit-il, qui vivent dans l'ignorance de cet amour de Dieu et de cette libération du Christ. Nous ne pouvons pas dormir l'esprit tranquille. C'est vraiment un point d'insistance très important. Et Maud, on peut conclure cette première partie avec en évoquant ce que Benoît XVI, quand Benoît XVI a béatifié Louis et Zélie Martin.
Voilà, il l'a fait intentionnellement le dimanche des missions. Et il a souligné justement cette date parce qu'il voulait insister sur le fait que le premier témoignage de sainteté d'un couple, c'est un témoignage missionnaire. Nous sommes les missionnaires de l'amour. Rappelez-vous ce qu'on avait dit au tout début de nos émissions. Quelle est la vocation du couple ? Révéler l'amour. Révéler le visage de Dieu dans l'amour des contraires, dans l'union des différences. Et ça, c'est le mystère du couple qui, par lui-même, est annonciateur, à condition, et ça c'est aussi une condition que nous ont rappelé régulièrement les papes, de dire au nom de qui nous vivons cet amour. Nous vivons cet amour au nom du Christ, par la grâce du Christ, en Christ pourrons-nous dire, et c'est cela que nous annonçons au monde.
On se retrouve dans un instant. Mode pour essayer d'approfondir l'appel du Christ pour les couples qui les engagent dans la mission et l'enjeu de cette mission.
Voilà, nous disions justement que le couple chrétien était appelé à être témoin de l'amour et il rend témoignage du royaume de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes appelés à faire en sorte que le royaume de Dieu advienne et il advient de plus en plus par l'amour.
Alors, rappelons-nous ce que nous avions dit au début de ces émissions. On avait insisté sur le fait que le couple est constitué, génétiquement pourrait-on dire, à l'image de Dieu. Bon, le péché a mis une sacrée pagaille là-dedans, mais nous sommes, quand nous accueillons le Christ et nous l'accueillons comme sauveur, nous réveillons, nous dilatons, nous faisons rayonner, en tout cas c'est notre appel, cette image de Dieu qui est en nous. Le fait que nous nous aimions, et que nous aimions de la durée, nous sommes image de Dieu. Et donc, un couple qui s'aime dans le Christ et qui se nourrit de cet amour du Seigneur, et bien rayonne du Seigneur et en cela témoigne de la réalité du royaume de Dieu. Et en cela, il est consolateur et il est un baume pour ceux qui justement ne connaissent pas le Christ. Et cette présence est interpellante.
Voilà, nous faisons quelque part, nous rendons présent l'image du Dieu Trinité qui est l'unité dans la diversité, qui est l'unité dans le respect de chaque personne et à la fois une communion pleine et entière. C'est l'appel de tout couple. Et on rend témoignage simplement du fait que l'amour est possible, que l'amour existe et qu'on peut donner sa vie pour l'autre. Cette parole du Christ que nous aimons tant, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà ce que le couple manifeste. Pardon. Je viens donner ma vie et je consacre ma vie pour rendre l'autre heureux.
Voilà, et c'est pour cela que cette mission conjugale, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, où nous savons tous combien de couples sont éprouvés, sont séparés, on parle à peu près d'un divorce sur deux aujourd'hui, d'un divorce pour deux mariages, et on voit bien que dans combien de classes, à un moment d'ado, y a plus de la moitié des enfants qui sont issus de familles séparées, etc. Et donc forcément, chez beaucoup de ces enfants, de ces adolescents, il y a forcément un doute par rapport à l'amour. D'abord, il y a des blessures des parents séparés, parce que si les parents sont séparés, effectivement, c'est toujours douloureux. Quelque part, moi, je suis le fruit de l'amour de mes parents, et donc si l'amour de mes parents n'existe plus, quelque part, il y a forcément une difficulté existentielle fondamentale. Et aussi, ce doute par rapport, mais est-ce que l'amour est possible ? Et donc, le témoignage de couples qui s'aiment malgré leurs difficultés, malgré leurs imperfections, et c'est un couple chrétien qui s'aime, c'est pas du tout un couple parfait. C'est un couple qui bute, qui a des difficultés, qui a besoin de se pardonner, de se convertir, etc. Mais c'est dilatant, c'est une source d'espérance pour les jeunes. Et donc on insiste vraiment sur le fait que la mission d'un couple qui s'aime dans le Christ, en nommant vraiment quelle est la source de leur amour, c'est quelque chose qui est fondamental pour les jeunes aujourd'hui, pour les adolescents.
C'est un témoignage tout simple que nous donnons par notre vie d'amour, tout simplement. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes dans notre entourage qui ne connaissent que quelques couples chrétiens ou quelques couples qui vivent ensemble et qui restent fidèles ensemble après 10, 15, 20 ou 25 ans. Et c'est vrai que c'est pour eux bouleversant de voir que c'est possible, que ce qu'ils portent en eux comme aspiration, oui, ça peut se vivre. Alors après, à nous d'annoncer, entre guillemets, le chemin pour rendre cet amour possible. Mais c'était extraordinaire de voir l'impact de l'amour conjugal tout simplement et l'amour familial. Et quand on est un foyer d'amour où vraiment il y a cette capacité en famille à rayonner du bonheur d'être ensemble, ben c'est vrai qu'on attire tout seul. La mission vient à nous, les questions viennent, les souffrances des autres se livrent parce qu'il y a là un endroit où on peut se réchauffer. Et la famille devient un lieu, si je puis dire, un havre de paix où on peut reconstituer ses forces.
Malgré tous nos blessures, nos imperfections, même à un moment nos engueulades entre l'un avec les enfants, etc., les difficultés, je veux dire, c'est pas du tout la famille, je dirais, icône parfaite, etc., etc., c'est pas du tout la question. Mais c'est vrai ce que tu as dit, Maud, dans les derniers mois, dernières années, nous avons vu au travers de l'accueil d'amis, de nos enfants, etc., plusieurs qui nous ont dit, mais jamais, jamais, je n'ai été dans une famille chrétienne et goûter comme ça cette paix, cette joie, etc. Je ne savais pas que c'était possible. Donc on est aujourd'hui dans un espace-temps, où effectivement on arrive ce temps où il faut annoncer en disant mais c'est possible, non pas en raison de votre histoire, de votre sociologie, etc., mais parce que le Christ est là, et si vous accueillez le Christ, vous pouvez construire cette famille autour de lui. L'amour est possible.
Voilà, alors pour vivre ça, c'est vrai que c'est important, Alex, que les gens se ressourcent dans une vie de famille, qu'ils découvrent que l'amour est possible, mais il est aussi important pour les couples d'apprendre aujourd'hui, plus que jamais, à à annoncer justement cette force et cette grâce de la bonne nouvelle. Comment dire la bonne nouvelle? Comment, je dirais, déployer nos charismes d'évangélisateurs qui sont parfois enfouis en nous et que nous n'avons pas déployés, même si parfois dans des expériences, dans des contacts avec nos collègues de travail, avec les mamans de l'école, avec dans des réunions, dans des activités diverses, dans les clubs de sport ou autres, l'une ou l'autre rencontre permet de parfois d'éveiller en nous, tiens, j'ai été capable de dire quelque chose sur le Christ, ça a touché cette personne. Donc il y a des petits signes, mais il faut apprendre à déployer ça, il faut apprendre à rendre compte de l'espérance qui nous habite, comme disait saint Paul.
Voilà, et puis je crois qu'on peut beaucoup s'appuyer, on aime beaucoup le texte, les textes et les réflexions du fondateur des cellules d'évangélisation à Milan, qui a écrit un livre très intéressant sur évangéliser en paroisse, donc ça nous concerne tous. Et voilà, et donc il appelle à s'imprégner de la méthode des premiers apôtres, du témoignage des saints évangélisateurs et de toute l'histoire de l'Église. Et donc il nous invite à joindre, je le cite, à joindre la sainteté de la vie chrétienne à la proclamation de la parole du kérigme et de l'expérience de la puissance et de la liberté dans l'esprit de l'amour. Et vraiment, c'est la conjonction donc de cette conversion de vie, de la proclamation et de la vie dans l'Esprit Saint.
Je rappelle pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté les émissions précédentes que le kérigme, c'est le cœur de la foi, c'est l'annonce du salut par la vie du Christ, sa mort et sa résurrection.
Voilà, et donc il parle de la condition pour devenir missionnaire, à la fois pour les baptisés, lorsqu'on est baptisé, mais donc particulièrement pour les laïcs et donc pour les couples. Donc les chrétiens ne deviendront évangélisateurs que dans la mesure où ils ont vécu, donc c'est ça, c'est lié à l'histoire, au passé, et continuent de vivre une expérience véritable de Jésus-Christ vivant et Seigneur. Il est vivant dans ma vie et il règne dans ma vie. Je lui ai donné ma vie. Dans la mesure donc où, animés par l'Esprit Saint, ils sentiront l'urgence de présenter cette expérience, donc cette expérience du Christ, cette libération du Christ, comme la plus importante et la plus engageante de leur vie. Voilà. La plus importante et la plus engageante. Comment peut-on être crédible auprès de ceux qui nous entourent, auprès d'abord de nos enfants, si nous ne sommes pas profondément convaincus que cette expérience de la transformation du Christ dans nos vies personnelles de conjoints et vies de couple, c'est l'expérience la plus importante de notre vie. Voilà, c'est une question très importante, Maud, que nous avons à nous poser en tant que couple chrétien.
Oui, c'est un exercice aussi, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile de se lancer sur ce registre où on n'est pas très habitué. Mais c'est vrai que quand on en fait l'expérience, en tout cas pour nous, ça s'est produit de maintes et maintes fois, nous avons été bouleversés par la force de l'annonce du kérigme. Rien que de dire le cœur de la foi, les gens sont bouleversés. Alors que quand on parle de peut-être venir à l'église, que c'est intéressant, qu'il se vit des choses fortes, mais ça ne touche pas les cœurs. Ce qui touche les cœurs, c'est l'amour, c'est le rayonnement, et c'est justement l'annonce,
la prédication.
De cette prédication de ce que Christ fait dans notre vie.
Voilà, il faut retrouver la puissance de la prédication, le témoignage de ce qu'il a fait en nous, en nous appuyant sur la puissance de la parole de Dieu. C'est impressionnant comme la parole de Dieu vraiment pénètre les cœurs. Et Maud, on voudrait conclure cette émission sur quelque chose qui nous est cher et sur lequel, quand nous avons lu ce texte de Jean-Paul II, nous avons bondi de joie parce que nous nous sommes reconnus. Je te laisse le dire, le souligner.
Voilà, il parle de la mission vécue en couple et ce que ça crée entre les conjoints. Voici sa citation. Chaque évangélisateur doit savoir que l'évangélisation crée des liens plus profonds que ceux qui naissent d'autres relations, des liens irréversibles et irremplaçables, des relations plus fortes que les liens du sang.
Voilà, c'est vraiment cette expérience extraordinaire qui est comme un cadeau en surabondance, c'est que de pouvoir missionner ensemble, de pouvoir annoncer le Christ en couple, hommes et femmes unis dans le sacrement du mariage, créer une communion et nourrir une communion qui est extraordinaire. Bien sûr, nous nous nourrissons tous les jours par notre amour, par notre affection, par notre tendresse, aussi par notre sexualité, etc. Mais, chose peut-être nouvelle pour beaucoup, l'expérience missionnaire, l'expérience de l'annonce et du témoignage crée aussi une communion, une connivence et une expérience qui est absolument unique et dans lequel nous nous reconnaissons si profondément dans cette interpellation de Jean-Paul II.
Et non seulement ça crée une grande communion, mais ça nous donne aussi une jubilation extraordinaire d'annoncer la parole ensemble au nom de notre sacrement de mariage. Quelle grâce!
En tout cas, c'est à cette jubilation que nous vous invitons, que nous prions pour vous, que vous goûtiez les uns et les autres cette joie immense d'annoncer le Christ ensemble, car c'est là notre appel en tant que couple. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. The extravagant love of God. The intimate friendship of the Holy Spirit.